Deuxième partie. Los Angeles. Chapitre 17. 2019. Ilian n'a pas répondu. Il a décroché quand je l'ai appelé. Il a entendu ma voix. Il m'a entendu l'appeler. Mais il n'a pas répondu. Il y avait du bruit, comme s'il était dans la rue, comme s'il avait posé son téléphone quelque part, loin de lui. J'ai attendu, longtemps. Puis j'ai raccroché. J'ai pensé et repensé à ces mots insensés, stupidement rimés toutes ces années. Il, Lian. Il déserte. Je tue, il. J'ai volé toute la journée. Je suis arrivée à Roissy un peu après 19h. J'ai à nouveau téléphoné dès que j'ai récupéré mes bagages, puis encore dans l'ascenseur qui descendait au parking. Cette fois, Ilian n'a pas décroché. J'étais si fatiguée. Je démarre ma voiture. Je coupe le son de l'autoradio. Je n'ai aucune envie de tomber sur « Let it be »,« Boys don't cry » ou « La Bamba ». Même si pendant le vol Montréal-Paris, aucune nouvelle coïncidence n'est venue me narguer. Aucun passager pour prononcer les mots qu'Iliane m'a laissés. Aucune allusion dans les prises de parole de Jean-Max au micro de l'Airbus, de Sœur Emmanuelle, de Georges Paul, de Flo. Plutôt silencieuse depuis que j'ai joué à la lanceuse de galets sur le pont Jacques-Cartier. Ou de Charlotte, plutôt délicieuse avec sa nouvelle frange coupée par le coiffeur québécois le plus branché. La nouvelle pierre de temps a-t-elle perdu son pouvoir? Ou, si c'est celle noyée dans le Saint-Laurent, réapparue miraculeusement dans mon sac à main, ne supporte-t-elle pas les plongeons, tel un vulgaire téléphone portable ou un appareil photo? Un gadget foutu dès qu'il tombe dans l'eau. Étrange pour une pierre censée avoir été ramassée par un sorcier dans le lit d'une rivière. Je sors du parking. J'en viens presque à m'amuser de cette succession d'événements étranges. Est-ce la tension nerveuse accumulée? Le jet lag? Le relâchement après 6 heures de vol? Ou tout simplement la joie de rentrer chez moi? Une grosse heure de route et je serai à Portejoie. Une très longue douche dans ma salle de bain. Même si Margot me saluera à peine.
Tiens, t'es rentrée, mam. T'as pris du pain en route?
Même si Laura ne manquera pas de me téléphoner.
C'est toujours d'accord pour garder les jumeaux demain matin?
Olivier, lui, sera là. Il aura préparé un repas. Un plat léger, joliment présenté. Une salade, des sushis, un saumon gravlax, déboucher une bouteille de vin blanc, du Gewürztraminer, mon préféré. Il ne me posera aucune question. Il me laissera redescendre sur terre. Il me laissera me coucher tôt. Il s'allongera pour lire à mes côtés. Il me fera l'amour si je n'ai pas sommeil. Il attendra mon réveil si je tombe comme une masse. Olivier connaît, accepte, anticipe toutes mes imprévisibilités. Je traverse Haute-Verne. Je suis exténuée, comme rarement je l'ai été en rentrant de vol. Presque sans le décider, je m'arrête sur le parking d'une station-service et une dernière fois je tente d'appeler Ilian. 0, 6, 1, 6, 8, 9, 2, 5, 1, 4. C'est le bon numéro. Il a décroché la première fois, sans prononcer le moindre mot. Il n'y a plus de tonalité, comme si le téléphone était coupé. Sans doute est-ce mieux ainsi. Du moins, je me force à le penser. Je laisse passer un camion et je redémarre. Oui, sans doute est-ce mieux ainsi. C'est fini. Je n'ai plus l'âge de bousculer ma vie. J'ai mis tant d'années à trouver cet équilibre, à faire le tri entre ce à quoi j'accepte de renoncer et ce qui m'est vital, à choisir mes amis, à aimer mon mari. Oui, aimer Olivier. Me sentir bien à ses côtés, parce que, chez lui, c'est aussi chez moi. Le détester parfois, mais toujours avoir envie de rentrer, de le retrouver. La passion, c'est avoir envie de s'enfuir avec quelqu'un. Mais l'amour, n'est-ce pas finir par apprécier sa prison? Olivier s'est arrondi. Olivier s'est dégarni. Olivier est pourtant plus beau qu'avant, plus prévenant, plus élégant. Je déboîte pour doubler le camion. Une voiture surgit de la colline, juste 100 mètres en face. L'adrénaline me sort en un éclair de ma torpeur. J'écrase l'accélérateur, me rabats in extremis devant le poids lourd, en répondant d'un signe de main à l'appel de phare du véhicule qui freine en face. Rentrer, me laver, m'écrouler. Je quitte la Nationale 14 en direction de Mouflaine. Une longue descente le long des coteaux de la Seine et je suis chez moi. J'aperçois les méandres du fleuve à chaque tournant. J'aime tant ce paysage. Ces méandres qui se creusent si lentement qu'aucun être humain n'en serait jamais conscient de son vivant. Ces pelouses en pente raide tondues par des moutons équilibristes. Ces falaises blanches hérissées de châteaux et de chapelles. La côte des deux amants. C'est ainsi qu'on appelle ici les falaises de la Seine. Les deux amants. Je m'arrête soudain, devant l'église de Mouy. Je saisis mon téléphone et j'efface le numéro d'Iliane. J'efface également l'historique des derniers appels. Les deux amants. Je ne regrette rien. Je souhaite même à chaque femme qu'elle puisse vivre un jour une telle passion. Connaître le frisson de l'évasion. Que serais-je aujourd'hui si je ne l'avais pas connue? Frustrée, aigrie, déçue. Qui serais-je si je n'avais pas connu cette certitude d'avoir un jour vécu? Si je n'avais pas éprouvé, après avoir quitté Iliane, ce manque absolu, la rage du sevrage. Aujourd'hui, Iliane ne me manque plus. J'ai rangé nos souvenirs dans un tiroir que je n'ouvre plus. Mais je sais que c'est à lui que je penserai, le jour où mes yeux se fermeront. C'est Olivier, Laura et Margot qui seront à mes côtés. Mais c'est à lui que je dédicacerai ma vie. On ne passe sur terre, au fond, que pour quelques instants d'euphorie. Je ressens un immense vide. Porte-joie, 3 kilomètres. La route me paraît interminable ce soir. Je sors du village alors qu'un panneau clignotant indique ma vitesse. 92 km/h, mon record. Je veux rentrer. Je veux tout oublier. Je veux dormir. Je sais, bien entendu, je sais pourquoi Iliane ne m'a pas répondu. Parce que j'aurais dû l'appeler avant. Parce que j'aurais dû rompre notre promesse. Parce que j'aurais dû briser notre contrat. Ce contrat qu'aucune autre femme n'aurait pu accepter de signer. Je surveille les jumeaux. Ethan et Noé s'amusent avec le petit train de bois que Papy Oli leur a fabriqué, sur une grande couverture étalée sur la pelouse, à quelques mètres de la Seine. S'ils jouent dehors, tu ne les lâches pas des yeux, maman, a eu le toupet de recommander Laura avant de filer travailler. Mais oui, ma chérie. Tu sais, avant tes 2 petits poussets, je vous ai élevés ici, ta sœur et toi, au bord de ce grand fleuve aux canards, aux hérons, aux cygnes qui mordent et aux clapotis des péniches. Et il ne vous est jamais rien arrivé. Ah, cette revanche des filles sur leur mère, dès qu'elles font des petits, comme si elles voulaient faire payer à leur maman tout ce qu'elles sont convaincues d'avoir raté. Je remonte un peu le transat sur lequel je suis installée. Hier soir, je me suis endormie à peine allongée. Je somnolais déjà dans mon bain. J'ai à peine touché au sashimi d'Olivier. Je me suis rattrapée avec les croissants du matin qu'il m'a rapportés. Oli.
J'ai à peine touché à Olivier. Lui ne s'est pas privé. Avant que la polo de Laura ne crisse sur les graviers et qu'elle ne largue les jumeaux, les couches, les jouets, les deux lits pliants, sans même arrêter le moteur. Il est 11h30. Le soleil d'automne a fini par triompher de la brume matinale sur la Seine et des nuages accrochés au sommet des falaises. J'ai enfilé une jupe et un chemisier échancré. Olivier travaille dans son atelier. Il termine une grosse commande pour un restaurateur parisien, comptoir de bar rétro et étagère art déco. Assis sur les couvertures, les jumeaux communiquent entre eux dans une langue inconnue. Je m'ennuie un peu. Je pianote sur mon téléphone portable tout en gardant un œil sur Ethan et Noé. Rassure-toi, Laura. Je me laisse envahir par les regrets d'avoir effacé le numéro d'Iliane, puis j'assoupire. Je ne suis plus une ado qui rêvasse devant des textos. 53 ans, ma cocotte. J'essuie des yeux le plongeon d'un martin pêcheur au beau milieu de la Seine. Geronimo, notre cygne, agite ses ailes, aussi agressif qu'un chat qui surprend celui du voisin en train de manger dans sa gamelle. C'est Margot qui a trouvé ce nom, Geronimo, pour le jeu de mots. Un cygne indien. Ainsi que ceux de ses trois petits, Saturnin, Oscar et Speedy. S.O.S. Trois signaux de détresse. Margot est assez douée pour les mots. Margot est assez douée en général, dès qu'il lui prend l'envie de se reconnecter au monde. Je me force à ranger mon téléphone dans mon sac à main. Une idée me vient. Je vérifie du regard qu'Olivier ne peut pas me voir, qu'il est enfermé dans son atelier. Et je sors de mon sac la pierre de temps, ce caillou étrangement passé du fond du Saint-Laurent au fond de mon sac. Je la soupèse dans le creux de ma paume droite, puis, tout en m'approchant des berges du fleuve, de ma main gauche, je ramasse un galet de la Seine. Plus gros, plus blanc, moins rond que la pierre de temps. L'idée m'est venue comme une évidence. Échanger les deux cailloux. La pierre de temps grise restera ici, chez moi, au bout de mon jardin, posée parmi les galets blancs au pied du petit muret de briques qui borde le fleuve. Et ce galet immaculé de mon jardin m'accompagnera, partout, dans mon sac à main. Tel un mini boulet de prisonnier, facile à transporter. Ça va, mon petit castor? Une heure plus tard, Olivier est enfin sorti de son atelier. Un apéritif, ajoute-t-il. Ça te dit? Quelques minutes de préparation improvisée et nous partageons un pommeau glacé sur la terrasse, alors qu'Ethan et Noé quémandent des biscuits à mamie et papy. Autant que vous voulez, mes chéris. Aucun de vous deux ne le répétera à maman. J'adore qu'ils inventent un langage secret pour partager des cachotteries. Olivier me bombarde de questions, plus encore que d'habitude. Alors, Montréal, il y a longtemps que tu n'y étais pas retourné. On y parle toujours français? Tu as croisé des écureuils, des bûcherons, le beau Trudeau? J'ai à peine le temps de sourire qu'il enchaîne avec une autre interrogation. Cette fois-ci, tu n'as pas perdu tes papiers? Il n'ajoute rien. Je suis surprise qu'il se souvienne avec tant de précision de ce sac oublié il y a 20 ans. Non, je n'ajoute rien. S'il te plaît, n'insiste pas, Oli. C'est pour toi, seulement pour toi, que j'essaie de tout effacer. Olivier éloigne d'Ethan et Noé le sachet de biscuits.
Tu voyageais avec des navigants que je connais?
Je m'accroche à cette bouée. Jean-Max Balin, tu sais, le pilote dragueur. Il paraît qu'il a des ennuis. J'étais avec Florence aussi. Olivier hoche la tête. Il sait qui est Flo. Il l'a vu 4 ou 5 fois.
Elle venait parfois dormir à la maison avant qu'elle se marie. C'est rare, non? Voyager avec deux personnes que tu connais.
Ça arrive. Ethan et Noé m'observent avec leur regard de petits chiens bien nourris, mais qui mendient d'instinct auprès du plus gentil. Je leur accorde à chacun trois curlies.
Et toi, Oli, tu as fait quoi pendant que je n'étais pas là?
Il a l'air surpris, comme si j'avais renvoyé la balle trop vite.
Rien de particulier. J'ai bossé. Hier, j'étais à Paris, avenue de Wagram, pour le resto.
Toi qui détestes les grandes villes.
Il ne répond rien.
Nous restons un long moment sans parler, à regarder la Seine couler, à observer les oiseaux qui survolent la réserve de la Grande Noé. Des cormorans, des mouettes, des avocettes, des sternes. Ethan et Noé sont repartis jouer. Ils ratent le héron. Olivier le regarde disparaître au bout du méandre, puis finit par se lever.
J'y retourne. Tu m'appelles pour le déjeuner?
Je suis son regard. Je le vois glisser sur ma peau dénudée, s'arrêter un instant sur mon épaule tatouée, observer mon hirondelle comme si elle pouvait s'envoler. Et moi rester? Comme gêné, son regard se perd vers notre maison de bois, le verger, les haies taillées, les berges du fleuve désherbées, l'atelier. Avant de retourner s'y enfermer, il se penche et m'offre un baiser.
Tu m'as manqué, petit castor.
Les jumeaux sont partis. Laura est passée les chercher en coup de vent. Elle travaille le soir même à Bichat, de garde toute la nuit. Elle aussi a des horaires pourris, presque autant que ceux de sa mère, sauf que son univers se limite au couloir blanc d'une fourmilière.
J'ai vu sur ton planning que tu avais un repos de plusieurs jours entre Los Angeles et Jakarta.
A tout de même pris le temps de glisser Laura avant de s'en aller. J'ai cru qu'elle voulait me coller Ethan et Noé en pension complète.
Alors tu ne fais aucun plan pendant quelques jours, promis?
Je n'ai rien promis.
Surtout que Jakarta après, c'est pas gagné.
Je l'ai regardé, surprise.
Tu ne suis pas les actualités, maman? Le tsunami? Le volcan sous-marin qui s'est réveillé dans l'océan Indien? Les vagues hautes de 5 mètres, les maisons balayées à Sumatra, à Java, les milliers de gens sans abri. Et ils attendent encore des répliques dans les jours qui viennent.
J'ignorais. J'ai dû avoir l'air stupide. Instinctivement, j'ai cherché des yeux mon sac à main.
Le vol Paris-Jakarta annulé.
Comme si une boucle du temps s'était refermée. L'effet immédiat d'avoir remplacé la pierre de temps par un caillou de mon jardin.
À dimanche prochain, maman.
Dimanche prochain?
Ben oui, dimanche prochain pour ton anniversaire.
Le reste de la journée court aussi doucement que coule la Seine. Mon avion décolle à 20h. Nous laissons traîner le repas en terrasse jusqu'au milieu de l'après-midi. Les heures avant mon départ sont toujours pénibles. Chaque silence semble dissimuler un nouveau reproche. Bien que cette fois, Olivier ne fasse aucune allusion pour me retenir. Margot se lève après les 12 coups de midi, nous rejoint au dessert, à peine habillée, pour dévorer un yaourt et des céréales, puis file sous la douche. Je monte chercher ma valise, au dernier moment, comme toujours. Je déteste l'exposer dans le couloir de l'entrée. Olivier m'aide à la charger dans le coffre de la Honda Jazz. Je suis un peu en avance. Je préfère me méfier des retours de week-end. Je manœuvre déjà ma voiture dans la cour quand Margot surgit, cheveux mouillés, pieds nus sur les graviers, juste un peignoir enfilé. Elle fait de grands signes pour que je m'arrête. Je m'étonne et me doute que ce n'est pas parce qu'elle a oublié de m'embrasser. Je baisse la vitre de ma portière.
Maman, tu vas à l'aéroport? Tu ne peux pas prendre plutôt le Kangoo de papa et nous laisser la Honda?
Quoi?
Maman!
Margot lève les yeux au ciel comme si j'étais une extraterrestre à qui il fallait tout expliquer.
Maman, tu sais bien que je commence la conduite accompagnée et je vais pas la faire au volant de la camionnette de papa.
Je reviens mardi, ça peut attendre 2 jours, non?
Maman!
Margot baisse les yeux, comme si le ciel venait de lui tomber sur la tête.
Maman, je dois rouler 1000 kilomètres avant d'avoir mon permis, et depuis la rentrée, j'en ai pas fait 100. Parce que tu es toujours partie, maman, avec ta voiture qui ne sert à rien garée sur le parking de Roissy. À ce rythme-là, j'aurai ma voiture à 20 ans.
20 ans, rien que ça. Margot est si différente de Laura. Si différente de son papa également. Aussi lunaire que son papa est terre à terre, aussi capricieuse qu'il est silencieux, aussi têtu qu'il est conciliant. Ils sont pourtant devenus terriblement complices tous les deux. Quand ils se retrouvent seuls, je les soupçonne de comploter dans mon dos. Olivier lui pardonne tout. Sans doute parce qu'il sait que, contrairement à Laura, Margot n'a qu'une envie. S'envoler. Je regarde ma fille droit dans les yeux.
20 ans.
Tu sais à quel âge j'ai eu mon permis? Et ma première voiture? La liberté a un prix, ma chérie. Et pour cela, il faut bosser un peu au lycée et l'été. Désolée, ma chérie, je n'ai pas pu m'en empêcher. Margot a passé juillet et août à glander avec sa bande de copines, toutes aussi désœuvrées. Je sais que je dois partir, mais tant pis. Je ne vais pas lâcher, et Margot ne lâche pas non plus. La dispute s'enlise, je déteste les mots qu'elle me force à employer. Travail, obéissance, patience, raison, frustration. Je déteste me sentir aussi vieille. Et Olivier le planqué qui ne dit rien à côté. Margot laisse passer l'orage, un tour gratuit sous la pluie, pour revenir à la case départ.
Ok, maman, ok. Alors, tu nous la laisses, la jazz?
Je me retiens d'être grossière. Elle me désespère. Je dois partir. Je tente un dernier argument.
Non. Et de toute façon, papa a besoin de sa camionnette pour son travail.
Mauvaise idée. Margot me prend au mot, se tourne vers son père, et je suis persuadée qu'il va accepter. Dire qu'il n'a pas besoin du fourgon pendant les jours qui viennent, qu'il peut travailler la nuit dans l'atelier et aligner les bornes en journée avec Margot en conduite accompagnée, la copiloter au lycée, au ciné.
Ta maman a raison, répond calmement Olivier à mon grand étonnement. J'ai besoin de ce fourgon pour des livraisons. Tu attendras que maman revienne pour conduire.
Margot se fige, trahie. Puis dissimule son visage derrière ses cheveux mouillés pour pleurer. Olivier m'embrasse alors que je reste plantée, surprise qu'il ait pu tenir tête à son ado chéri. Je réagis enfin. Je file. J'ai perdu plus d'une demi-heure à parlementer. Je roule vers Roissy, pestant contre les limitations de vitesse sur la nationale qui empêchent de rattraper le moindre retard, bien que le trafic soit plus fluide que je ne l'avais anticipé. Direction LA. Mes pensées ne peuvent se détacher de ces mêmes jours, il y a près de 20 ans, entre mon retour de Montréal et mon départ pour Los Angeles. De cette même route, de ces larmes qui coulaient, intarissables. Paris porte-joie, porte-joie Paris. 20 ans. Tout un symbole. Le temps qu'a attendu Pénélope avant de retrouver son amour disparu. Je me force à sourire. 20 ans à se convertir à la tapisserie ou la menuiserie. Mon téléphone accroché au tableau de bord sonne alors que j'arrive à la sortie de Gonesse, à moins de 3 kilomètres de Roissy. Si près que les avions semblent traverser les champs. Je vérifie à l'horloge que je ne suis pas en retard, que ce n'est pas Air France qui s'inquiète. Numéro inconnu.
Tout en décrochant, j'essaie de remonter le temps à toute vitesse, d'abandonner dans un coin de ma tête la Nathalie désespérée de 1999, sur cette route, sur ce même vol, et de revenir à ce téléphone qui s'impatiente aujourd'hui.
Nathalie ? Oui ? Nathalie, c'est Ulysse.
J'ai une mauvaise, une très mauvaise nouvelle à t'annoncer.